Chapitre 33e. Le coup décisif. Un grand nombre d'évêques, convoqués par l'empereur, s'étaient assemblés pour examiner la question de savoir si Chrysostome pouvait être convaincu d'une faute qui justifiât sa déposition. Théophile, humilié par son premier échec et craignant d'en essuyer un second, ne vint pas. Mais il envoya d'autres évêques qu'il sut malicieusement prévenir et monter contre Chrysostome. Cependant, le nombre des partisans du patriarche semblait écraser celui de ses adversaires. Eudoxia crut le moment venu de frapper un grand coup. On était dans la semaine sainte de l'an 404. L'empereur avait la pieuse habitude de célébrer la fête de Pâques avec tout le peuple dans l'église Sainte-Sophie où le patriarche officiait. Cette fois, il lui fit savoir qu'il ne viendrait pas, parce qu'il ne convenait pas que l'empereur assistât à une cérémonie présidée par un évêque qui était déposé et qui ne s'était pas encore justifié des nombreuses accusations portées contre lui. C'était le signal de l'ouverture des hostilités. La déclaration de l'empereur, toujours si importante, plus importante encore dans sa capitale et dans les conjonctures actuelles, effraya les esprits timorés et impressionna les cœurs chancelants d'une façon si vive que beaucoup d'évêques, jusqu'alors attachés au parti de Chrysostome, l'abandonnèrent. On n'était pas assez loin des jours de l'empereur Balens pour avoir oublié la persécution et l'exil des évêques et l'abandon des paroisses. On disait tout haut que l'impératrice était décidée à changer le patriarche. Pour avoir la paix avec l'impératrice, il fallait être conciliant, d'autant plus que personne ne pouvait rien changer à la situation ni à ses dispositions envers Chrysostome. Il y en eut d'autres, même des hommes animés des meilleurs sentiments, qui se laissèrent prendre dans le réseau d'intrigues, de mensonges, d'inventions calomnieuses dont on les enveloppa. Ils ne virent pas le piège. Ils furent étourdis par l'agitation qui régnait autour d'eux et se laissèrent entraîner au courant. Cependant, 42 évêques restèrent encore fidèles et dévoués à Chrysostome. Ils refusèrent de reconnaître le prétendu concile du chêne et par conséquent la validité de la déposition du patriarche et la qualification d'intrus qu'on voulait lui donner. Malgré cela, la majorité fut contre le patriarche. Elle confirma la sentence de déposition et la présenta à l'empereur en le priant de la rendre publique. Arcadius le fit. Il savait qu'on ne pouvait reprocher l'ombre d'une faute à Chrysostome, qu'on ne se hâtait de le déposer que parce qu'on désespérait de lui trouver la moindre tâche. Mais Eudoxia le voulait, et il céda. La figure, empruntée par Chrysostome à la vie d'Hérodias, se vérifiait dans la conduite d'Eudoxia. Si ce n'était pas sa danse, c'était son sourire ou ses larmes, qui dictait à l'empereur sa règle de conduite. En ce moment, il devait faire le dernier pas, et il y répugnait. La douceur est l'auréole du pouvoir, lui dit l'évêque Sévérien, mais la fermeté des décisions qui intéressent la justice en est le fondement, et la base est plus nécessaire que le couronnement. Qu'il plaise donc à votre majesté, ô glorieux empereur, d'éloigner le patriarche déposé de sa cathédrale et de votre résidence. C'est le seul moyen d'exécuter la sentence, ajouta Antiochus, évêque de Ptolémaïs, et la dignité du concile sera atteinte, ô pieux empereur, si vous différiez d'ordonner cette exécution. Il ne faut pas perdre de vue, fit observer Acasius, évêque de Béroa, que le peuple de Constantinople se trouve dans un état croissant d'agitation. Il est divisé en deux camps, l'un pour, l'autre contre Jean Chrysostome, et rien ne serait plus facile que de le porter à l'insurrection. N'oublions pas non plus, dit Eudoxia pour corroborer la demande des évêques, que si le troupeau ne doit pas être sans pasteur fidèle, il ne doit plus rester sous la direction d'un pasteur infidèle. Tout ce que vous dites, mes vénérables pères, est juste en soi et mérite d'être pris en considération, répondit l'empereur. Cependant, ma conscience n'est pas convaincue que ce soit ici le cas d'en faire l'application. Les juges régulièrement constitués de Chrysostome lui font application de la loi. Quelle objection pourrait s'élever après cela dans la conscience la plus délicate ? Demanda Sévérien. N'est-il pas noble et grand de soumettre sa conscience à la loi ? Demanda Antiochus. Nous sommes en présence d'un cas extraordinaire et très grave, répondit l'empereur. D'une part, à cause de la haute dignité dont est revêtu Chrysostome, le premier prélat de l'Église après son chef suprême qui est à Rome. D'autre part, à cause des éminentes vertus par lesquelles il s'est signalé pendant 50 ans. et qui le font regarder ici comme un saint par le peuple fidèle. La plus grande prudence me paraît donc nécessaire. Voulez-vous, sire, nous compter au nombre des infidèles ? Demanda Eudoxia en riant. Parce que nous ne regardons pas Chrysostome comme un saint, comme le type de la vertu la plus pure et la plus sublime ?
Ce n'est pas ma pensée, répondit Arcadius, interdit. Mais une semblable déposition cause toujours un immense scandale et est un mauvais exemple pour l'avenir.
Nous prenons sur nous toutes les conséquences, ô magnanime empereur, dit Sévérian.
Et nous aussi, dirent les deux autres évêques.
Maintenant votre tendre cœur sera tranquillisé, n'est-ce pas, mon empereur bien-aimé ? Demanda Eudoxia.
Je ne veux pas m'opposer davantage à la décision des vénérables pères, dit Arcadius.
Je me soumets, bien que je ne sois pas parfaitement convaincu.
La pauvre nature humaine est ainsi faite, dit l'évêque Sévérian d'un ton compatissant.
Il faut un acte énergique de la volonté pour la soumettre. Aussi la mortification en ce sens est-elle une très grande vertu, parce qu'elle est très pénible.
La victoire était remportée.
Arcadius envoya au patriarche l'ordre de quitter Sainte-Sophie et de s'éloigner de la ville avant le jour de Pâques. Chrysostome répondit que Dieu lui avait confié cette église pour y travailler au salut des âmes. Il ne pouvait donc la quitter. Mais la ville appartenant à l'empereur, il avait le droit de l'en chasser, s'il ne voulait y souffrir sa présence.
« Vous le voyez, mon bien-aimé empereur, dit Eudoxia, le patriarche est préparé à son éloignement, n'hésitez donc pas. »
Cependant, l'empereur hésitait encore et prenait des demi-mesures. Il donna l'ordre à un centurion de sa garde de surveiller si bien le patriarche qu'il ne put sortir de son palais pour aller à l'église. Cependant, l'agitation devint très grande dans le camp des fidèles. Ils virent qu'on voulait très réellement leur enlever le patriarche justement à l'approche de la fête de Pâques, dans laquelle il devait donner le baptême à 3000 catéchumènes. Le mécontentement et le désespoir s'emparèrent des cœurs. On ne voulait pas croire que Chrysostome dut être sacrifié à ses ennemis. Toutes les églises se remplirent de fidèles qui imploraient avec l'arme de la justice éternelle la protection du juste. On était au Vendredi Saint. L'empereur et l'impératrice se rendirent pour faire leur dévotion dans l'église des saints martyrs. Là se trouvaient réunis les 42 évêques restés fidèles à Chrysostome et à la vérité. Ils étaient résolus à faire devant le peuple, dans ce saint jour et dans ce saint lieu, une tentative pour prévenir un acte d'inique violence. La nouvelle s'en répandit dans la ville, et les fidèles affluèrent à l'église des martyrs. Quand Arcadius et Eudoxia parurent, ils trouvèrent dans l'avant-cour et le portique qui l'entourait une foule compacte, qui se mit à étendre les bras vers eux en les faisant entendre des plaintes et des prières au lieu des acclamations joyeuses dont on saluait d'ordinaire leur majesté. Dans le vestibule se tenaient les évêques, tous hommes vénérables et d'une piété reconnue. Elpidius de la Odyssée prit la parole et conjura l'empereur d'avoir pitié de l'Église de Jésus-Christ, de rendre au troupeau affligé son pasteur bien-aimé et de ne pas troubler d'une manière si fâcheuse la célébration de la grande fête qui s'approchait. L'empereur garda un silence inquiet. L'impératrice montra un air mécontent, n'adressa pas une parole à l'évêque et fit un mouvement d'impatience. Alors Paul, évêque de Pont, vieillard à cheveux blancs, s'approcha d'elle. « Craignez Dieu, lui dit-il d'une voix vibrante d'émotion, ayez pitié de vos enfants. Une sentence injuste ne porte point bonheur. » Elle se détourna de lui avec un mouvement d'humeur et passa devant les évêques sans dire un mot et sans faire un salut. L'empereur la suivit. Les évêques s'éloignèrent le cœur triste, inquiet. Le peuple resta dans une attente torturante. Eudoxia rentra chez elle mécontente et ennuyée, roulant dans son esprit des pensées de colère. Oubliant toute idée de conciliation, elle trouva mal à propos que Cunil se présenta juste à ce moment et demanda à lui parler.
« Comme vous êtes pâle, dit Eudoxia, vous n'êtes pas bien, allez vous reposer. »«
Je n'ai point de mal, répondit Gunilde, et je n'ai pas besoin de repos. Je venais me présenter pour la dernière fois devant l'impératrice. »«
Comment cela ? Fit Eudoxia. « Voulez-vous entrer dans un cloître aussitôt après votre baptême ?»«
Je ne le pourrais sans passer par les épreuves préparatoires. »«
Où voulez-vous donc aller demeurer, Gunilde ?»«
Auprès de la diaconesse Olympia. »
« Auprès de cette femme, si ardemment dévouée à la cause de Chrysostome,
auprès d'elle-même. »«
Cette démarche dans ce moment est ingrate et offensante pour moi, » fit Eudoxie avec colère.
« Vous savez combien j'ai désiré vous voir entrer dans le giron de l'Église catholique. »«
Et maintenant que vous embrassez le christianisme, vous me quittez, moi qui depuis des années vous êtes traité et aimé comme une mère et une amie, moi qui eus tant d'indulgence pour votre caractère difficile, et vous allez vivre avec une personne étrangère. Si vous vous retiriez dans une communauté religieuse, j'y consentirais volontiers, supposant que votre âme répondrait à un secret appel du ciel. Mais me quitter pour aller auprès d'Olympia, et sans aucun motif, je ne puis l'accepter. Un motif pressant me pousse à m'éloigner de vous, dit Gunilde d'une voix étreinte.
Le devoir de la reconnaissance devrait être plus fort, répondit Eudoxia.
Impossible, s'écria Gunilde. Vous le savez, je suis tout d'une seule pièce. Où mon cœur est, j'y suis tout entière. Mon cœur appartient à l'Église que Jean Chrysostome gouverne au nom et à la place de Jésus-Christ. Je veux rester auprès de l'Église et m'attacher à ses défenseurs. Par conséquent, je dois vous quitter, auguste souveraine, puisque dans le palais impérial, on ne reconnaît plus le patriarche pour le chef régulier de son Église.
« Qui vous a révélé qu'il en est le chef régulier ?» demanda Eudoxia d'un air tranchant.
« Ce sont ses ennemis, madame. »
« Vous radotez, pauvre enfant, » dit Eudoxia d'un ton méprisant.
« Un mauvais prêtre m'a ouvert la route de l'Église, » répondit tranquillement Gunilde. « Je me suis dit, il faut que l'Église repose sur des fondements divins pour n'être pas anéantie par de pareils serviteurs. En ce moment encore, je vois des prêtres, les uns semblables à celui-là, les autres moins mauvais, mais également imbus de l'esprit mondain et associés avec les hommes du monde et les femmes du monde. Je les vois parmi les adversaires les plus ardents du patriarche. J'en conclus que lui aussi repose, comme l'Église, sur une base inébranlable. Et c'est pour cela que je m'attache fortement à lui, comme Olympia, comme Amensus, comme les 42 évêques fidèles, comme la partie pieuse du clergé et la grande masse du peuple croyant.
Mais Amensus ne me quitte pas pour cela. Le peuple et le clergé ne se soulèvent pas pour cela contre moi, contre l'empereur,
dit Eudoxia.
« Je ne me soulève pas non plus, » répondit Gunilde.
« Ma souveraine m'a fait une question et j'y ai répondu simplement. Quant à Amensus, il a vieilli dans le christianisme et il tient ferme. Mais moi, je dois craindre pour ma foi naissante et la tenir loin d'un lieu que le schisme menace. »
« Et quel est l'auteur de tout ce mal à vos yeux? N'est-ce pas l'impératrice seule ?» demanda Eudoxia d'un ton sec.
« Il n'appartient de le dire qu'à celui qui lit dans le secret des cœurs. « Je n'accuse personne. Je vois seulement que le royaume du monde est en lutte constante avec le royaume de Dieu.
Chacun peut s'affirmer et se prononcer d'une façon ou d'une autre. »
« Fille Eudoxia, moi, impératrice, je me suis prononcée. Et vous, qui me devez tout, vous, digne fille d'un traître, vous passez à mes ennemis. Allez, je pourrais vous bannir en Thessalie, votre sauvage patrie, mais je suis généreuse jusqu'au bout. Je vous bannis seulement de ma présence. » J'essaierai d'oublier que cette heure de votre conversion, que j'avais tant désirée et que je voulais bénir, vous l'avez souillée par une ingratitude si noire que je dois m'en détourner avec un amer chagrin.
« Non, oh non !» s'écria Gunilde en se jetant aux pieds d'Eudoxia. « Je ne suis pas ingrate, je ne suis pas indigne de vos bontés. Si je pouvais, au prix de ma vie, changer les événements, ô ma souveraine, j'en ferais le sacrifice avec bonheur. Mais dans l'état actuel des choses, je dois m'attacher au saint vieillard qui est le chef de l'Église à laquelle j'appartiens.
L'Église ne change pas parce qu'un évêque est changé, dit l'impératrice. Dans ses dogmes et ses sacrements, cela est vrai. Mais pour ce qui concerne leur enseignement et leur administration, c'est autre chose, dit Gunilde, toujours au pied de l'impératrice. Il n'est pas indifférent que le pasteur s'efforce de conduire son troupeau dans les pâturages de la vie éternelle ou qu'il le laisse égarer dans les déserts du monde.
Vous m'accorderez que je sais mieux que vous quelles qualités sont nécessaires à un patriarche.
Chrysostome a été déposé par deux conciles. Ma conscience est tranquille.
La mienne aussi, dit Gunilde avec un profond chagrin.
Puissiez-vous ne jamais vous en repentir, dit Eudoxia froidement.
Elle se détourna de Gunilde.
Oh, avant de vous quitter, laissez-moi vous remercier, s'écria Gunilde en saisissant le bord de la robe d'Eudoxia. Vous remercier pour toutes les bontés, l'affection, l'indulgence que vous avez eue pour moi. Vous remerciez pour toutes les bonnes paroles, tous les regards d'amitié, toutes les marques de votre bienveillance. Vous remerciez pour votre sollicitude maternelle et votre protection impériale.
Épargnez-moi vos paroles, fit Eudoxia en l'interrompant. Elles n'ont aucun sens au moment où votre conduite est ingrate.
Elle se dégagea par un mouvement brusque
et quitta la chambre. Gunhild se leva tout en larmes et se rendit dans son appartement où Amansius l'attendait.
« Vous avez pris congé ? » demanda-t-il avec intérêt.
« Oh, congé n'est pas le vrai mot, » s'écria-t-elle. « C'est une sentence d'exil qui vient d'être prononcée. Apprendons la chose dans son vrai sens.
Oh, la foi coûte de durs sacrifices. Arienne, je serais resté au palais impérial. Je serais resté l'enfant chéri de l'impératrice. Chrétienne, je n'ai plus d'autre asile que celui que m'offre la charité. »
C'est par là que votre foi s'affirme, répondit Amansius. Vous vous enrôlez sous la bannière de celui qui n'avait pas sur la terre de place qui lui appartint en propre. Maintenant, vous pouvez marcher sur ses traces dès vos premiers pas dans l'église. Celui qui embrasse la croix embrasse le sacrifice dans les deux sens, le sacrifice de l'homme-dieu et le sacrifice de l'homme naturel. Le Christ est attaché pour vous à la croix. Eh bien, noble Gunhild, attachez-vous à lui. »
Elle sécha ses larmes.
« Vous êtes si fervent et cependant vous restez ici ?» lui demanda-t-elle.
« On sait qu'aucune considération humaine ne pourrait m'ébranler. On connaît mon dévouement absolu au patriarche. Personne ne fera la moindre tentative pour me faire changer. Et qui sait si l'on ne changera pas ici avec le temps ?»«
Ah, vous espérez ? » fit-elle étonnée.
« L'espérance est une vertu chrétienne, » répondit Amansius. « Elle est fille de la foi ferme et du saint amour. »
« Espérez-vous pour l'impératrice ou pour le patriarche ? » demanda-t-elle avec insistance.
« J'espère dans les martyrs, » dit Amansius.
« Eh bien, » s'écria-t-elle, « nous mourrons avec lui. »«
Oh non, pas vous, noble Gunhild.
Votre jeunesse n'est pas mûre pour le martyr, »
dit Amansius avec douceur et tristesse.
« Mais tout est préparé pour un coup décisif et terrible. Les ennemis du patriarche ont rassemblé dans la ville des troupes sur lesquelles ils peuvent assez compter, pour ne craindre aucun soulèvement populaire. Et je crois que le moment est venu où le patriarche dira comme le Christ au début de sa passion, « Voici votre heure et la puissance des ténèbres. » Il y succombera. Mais pour vous s'approche une heure bénie, heure de lumière et de joie. Dans la nuit de Pâques, vous serez régénérés dans les eaux du baptême, et ni ma langue, ni aucune langue humaine ne pourrait vous féliciter dignement d'une aussi grande grâce.
Un rayon de joie céleste brilla sur le front attristé de la jeune fille.
« Oui, » dit-elle, « mon âme sera lavée dans le sang de l'agneau. »